Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
De sur Radio Présence, et comme tout l'a dit, nous sommes en direct pour Soif d'autre chose, votre émission hebdomadaire qui vous accompagne dans ce début de soirée, ce début de semaine, et pour vous accompagner comme chaque lundi, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Louis-Marie. Bonsoir Louis-Marie.
Bonsoir Enzo, bonsoir tout le monde.
Alors Louis-Marie, qu'avons-nous au programme de l'émission aujourd'hui?
Comme chaque lundi, des chroniques, de la musique, et aujourd'hui aussi un entretien, et pas des moindres.
Pas des moindres, oui.
Qu'est-ce qu'on reçoit ce lundi?
Eh bien alors, on ne reçoit pas d'invité, mais bon, ça reste quand même...
Un entretien,
ça sera toi Louis-Marie.
Et oui.
Un petit témoignage, parce qu'on va célébrer tes un an de baptême, voilà, ce sera
oui.
Un beau témoignage qu'on aura sur le pendant le baptême, avant sur, le catéchuménat, cette première année, et puis aussi le après, on va parler du synode normalement, du
ouais,
synode
qui est... provincial, voilà, qui aura lieu à
en
Paris,
Île-de-France. Exactement. Puis après, on te retrouvera aussi en début d'émission aux alentours de 19h08 pour revenir sur le voyage apostolique du Saint-Père en Afrique,
oui,
et ta deuxième chronique vers 19h50 sur
Saint-Georges le martyr du 1er siècle.
Voilà, donc le programme est fait, c'est parti pour Soif d'autre chose. Et comme chaque lundi, on commence l'émission en musique. C'est AA Take On Me, vous l'entendez derrière moi. On se retrouve dans quelques instants avant de parler justement de ce voyage apostolique du Saint-Père en Afrique et de retrouver ce témoignage, ce beau témoignage de Louis-Marie sur Radio Présence. Très bonne soirée à notre écoute. C'est parti.
Trying to find you, shy.
19h05 sur Radio Présence. Louis-Marie, on va faire un petit retour sur le voyage apostolique du Saint-Père en Afrique. En effet, depuis le 13 avril, le pape Léon XIV explore le continent.
Exactement, et ce voyage qui est encore en cours, hein, et qui se terminera jeudi par sa visite en Guinée équatoriale qui commencera demain. Pour l'heure, le Saint-Père est en Angola où il a célébré la messe hier. Donc on va revenir un petit peu sur tout l'étendue de ce voyage et le pourquoi du comment. Donc un voyage qui est chargé de symboles et qui a commencé en Algérie, dans une terre où se croisent mémoire chrétienne ancienne et réalité contemporaine majoritairement musulmane. Et dès les premières étapes de cette visite, une figure s'est vite imposée, celle de Saint Augustin, né à Tagaste. Augustin était un des pères de l'Église les plus influents, philosophe en quête de vérité, converti après une longue errance spirituelle. Il incarne une foi pensée, interrogée et vécue. Le pape Léon XIV, dans ses discours, a souligné ce lien profond entre la tradition augustinienne et sa propre vision d'une église en dialogue avec le monde. Une église qui doute parfois, mais qui avance. Ce lien est d'autant plus fort que saint Augustin est aussi une figure universelle, qui est partagée entre plusieurs cultures, et notamment en Algérie, où les Algériens sont fiers d'avoir saint Augustin comme un de leurs compatriotes, comme un de leurs personnages historiques. Et il rappelle que le christianisme n'est pas une importation récente, mais une racine ancienne du territoire. Un message essentiel dans un contexte où la coexistence religieuse reste un enjeu très sensible. Un autre temps fort de ce voyage, c'est l'hommage rendu aux moines de Tibérine. Ces religieux trappistes français, assassinés en 1996 en pleine guerre civile, sont devenus un symbole du dialogue interreligieux qui était vécu au quotidien. Leur choix de rester auprès de la population locale malgré les dangers continue encore d'interroger et d'inspirer. Le pape Léon XIV a évoqué leur fraternité jusqu'au bout, rappelant que leur présence était avant tout un témoignage de solidarité humaine au-delà des appartenances. Mais son voyage ne s'arrête pas en Algérie, le pape a également poursuivi sa tournée africaine avec les étapes au Cameroun et en Angola, deux pays où l'église catholique est particulièrement vivante et engagée. Au Cameroun, le pape a insisté sur le rôle de la jeunesse, appelant à une espérance active dans un contexte marqué par les tensions politiques et sociales. En Angola, il a mis l'accent sur la réconciliation et le développement dans un pays encore marqué par les séquelles de la guerre civile. À chaque étape, le même fil conducteur, proximité, écoute et encouragement des communautés locales. Son voyage africain s'inscrit illustre une réalité bien établie. L'Afrique est aujourd'hui l'un des cœurs battants du catholicisme mondial. Une église jeune, dynamique, souvent confrontée à de grands défis, mais porteuse d'une énergie et d'une créativité remarquables. Et cela nous amène à nous interroger et à élargir notre regard. Et que représentent au fond ces voyages apostoliques? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont relativement récents dans leur forme actuelle. Pendant des siècles, les papes restaient à Rome, exerçant leur autorité depuis le Vatican, et les déplacements étaient très rares. Et souvent limité d'ailleurs à l'Italie. Et le véritable tournant intervient au XXe siècle avec le pape Paul VI, qui en 1964, lorsqu'il se rend en Terre Sainte, inaugure une nouvelle manière d'exercer le pontificat. Une présence directe sur le terrain, au contact des fidèles et des réalités locales. Mais c'est surtout Jean-Paul II qui va donner au voyage apostolique leur dimension moderne. Infatigable pèlerin, il parcourt le monde faisant de chacun de ses déplacements un événement global. Il transforme le pape en témoin itinérant et en un messager universel. Depuis, ces voyages sont devenus une composante essentielle du rôle papal. Ils répondent à plusieurs objectifs, renforcer les communautés catholiques, promouvoir le dialogue interreligieux, attirer l'attention internationale sur certaines régions et porter des messages forts sur des enjeux globaux comme la paix, l'espérance et la justice. Car au-delà de leur dimension spirituelle, ces déplacements ont aussi une portée diplomatique et culturelle. Ils permettent de créer des ponts, d'ouvrir des dialogues et parfois même d'apaiser des tensions. Le voyage du pape Léon XIV en Afrique s'inscrit pleinement dans cette tradition, en Algérie, au Cameroun, en Angola. Il ne s'agit pas seulement de visites officielles, mais de rencontres humaines, d'histoires partagées et de mémoires ravivées. Au fond, ces voyages racontent une chose simple mais essentielle, une église qui ne reste pas immobile, mais qui choisit d'aller vers les autres, là où ils vivent, avec leurs espoirs et leurs fragilités.
Voilà, le pape François qui est actuellement en Angola, hein, qui a
le pape Léon XIV.
Le pape Léon XIV. Merci Louis-Marie, qui est actuellement donc en Angola jusqu'à demain, 21 avril, et qui conclura son voyage en Guinée équatoriale dans les prochains jours. On se souvient aussi de ces exhortations qu'il a eues, notamment pour la paix, notamment en Ukraine et notamment dans le conflit israélo-palestinien. Avant de te retrouver encore une fois Louis-Marie pour ce témoignage sur ton baptême, on va écouter l'homme en blanc, dans le thème de notre chronique. On se retrouve juste après.
L'avion, il embrasse la terre, à genoux sur sur le sol comme on fait sa prière. Et même les officiels ne savent plus quoi faire avec leur vieux discours, leur tenue militaire. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Il embrasse les enfants que la foule lui tend. Dieu que la terre est rouge quand on le voit si blanc, comme un bateau qui bouge sur la marée des gens. Et les mots qu'il prononce dans les haut-parleurs sont des coups de semonce qui leur vont droit au cœur. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Devant chaque visage, il s'arrête un instant. Et les grands des écoles chantent pour l'homme en blanc. Ces vieux chants espagnols où s'engouffre le vent. Même le plexiglas à l'épreuve des balles ne le sépare pas des foules qui dévalent. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Son parcours est rempli par des millions de gens. Dieu que la place est noire quand on le voit si blanc. Comme une vague d'espoir où s'accrochent les gens. La vie qu'il annonce aux peuples à genoux, c'est comme une réponse qui les remet debout. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Il poursuit son voyage infatigablement. Dieu que le ciel est bleu quand on le voit si blanc. Comme une voile qui bouge sur la marée des gens.
Alors que leur nombre est en forte hausse en France depuis 3 ans, les catéchumènes et les néophytes sont au centre d'un événement rare en préparation, un concile organisé par les diocèses d'Île-de-France. Il s'ouvrira le 31 mai 2026. Et pour en parler, Louis-Marie, ex-néophyte,
depuis hier.
Exactement. Tu vas nous en parler un peu de ton témoignage. Pourquoi ce concile? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire? Quelles sont les préparations aussi de ce baptême? Alors, on en a parlé du catéchuménat, etc. Mais
bien sûr, l'après est important.
L'après est aussi très important. Ouais. Comment garder ces néophytes avec nous dans l'Église?
Ouais. C'est justement la grande question que se pose l'Église et que du coup, ce concile va essayer de répondre. Et c'est très important parce que c'est vrai qu'on constate depuis 3 ans qu'il y a une très forte augmentation des baptêmes, et surtout des baptêmes d'adultes, de jeunes adultes. Et donc, j'ai fait partie de ces gens-là. Et puis, c'est du coup tout un chemin qui a été vécu au premier plan. Et donc, ce qui est intéressant, du coup, ce serait de pouvoir un peu revenir sur cette année qui s'est écoulée, sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui s'est passé après, et sur comment les choses sont maintenant et comment s'ouvre aussi l'avenir. Alors voilà, commencer peut-être déjà par rappeler un petit peu hein, les grandes lignes du chemin que parcourt aujourd'hui un jeune adulte qui pousse les portes de l'église.
Alors concrètement, quand on a la foi, quand on découvre ce qu'est la foi et qu'on n'est pas baptisé, comment ça se passe ?
Bien, déjà, chaque chemin est différent parce que tout le monde vient d'horizons différents. Certains ont reçu un peu d'éducation chrétienne et recommencent. D'autres n'ont rien reçu. D'autres font même partie d'autres religions. Il y en a qui viennent aussi de l'islam, du judaïsme, qui se convertissent à l'église, à la vraie foi, et qui donc prennent chacun des chemins qui leur sont propres. Mais on constate voilà qu'il y a quand même souvent des variantes, enfin des choses qui reviennent assez souvent, et c'est parfois du coup une quête de sens qui vient s'ouvrir quand on devient jeune adulte et qu'on arrive dans ce monde où qui est vraiment sans repère et qui perd un peu de sens, et donc on a besoin de se rattacher à quelque chose. Et donc ça a été le cas pour moi, hein. C'était vraiment une quête de sens et surtout le besoin de me rattacher à quelque chose qui tient la route et quelque chose de vraiment solide. Et j'ai assez vite compris que c'était dans l'église que je pourrais trouver toutes les réponses à mes questions, et surtout que je pourrais voilà faire partie de quelque chose de plus grand qui me dépasse, qui est vraiment aussi une recherche de transcendance et de spiritualité, pas seulement une envie d'appartenir à quelque chose ou de s'inscrire dans une certaine logique, mais vraiment d'avoir une quête qui est plus grande et qui dépasse seulement un intérêt un peu extérieur.
Et donc concrètement, tu es allé voir donc un prêtre, je suppose, ouais. Le curé de la paroisse étudiante, ouais, l'abbé Damien Verlet à l'époque.
C'est ça, dans mon cas c'était ça. Ouais.
Et comment en fait finalement se passe la formation ? Est-ce qu'on a un catéchisme vraiment magistral ? Est-ce qu'on a un catéchisme comme certains ont pu connaître dans leur paroisse à faire des coloriages,
et des quiz ?
Comment ça se passe en fait ?
Non, c'est très différent parce que déjà donc oui, pour mon cas j'étais formé à la paroisse étudiante de Toulouse hein, qui est aussi à l'initiative de cette émission même, et donc voilà, quand je suis arrivé en fait au début forcément on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop où aller, donc on va au plus proche, on va au prêtre. Et donc voilà, moi j'ai demandé un jour à la fin d'une messe de pouvoir recevoir le baptême. Et donc voilà, je savais pas du tout ce qui m'attendait, je savais pas comment est-ce que tout ça allait se passer. Donc bon, forcément j'ai été très bien reçu, et donc forcément quand on reçoit quelqu'un, on apprend aussi à le connaître. Donc moi j'ai d'abord eu une première rencontre avec une des catéchistes de la paroisse étudiante qui s'occupait donc de recevoir aussi les nouveaux. Donc c'est déjà passé par ça, par une discussion, quelque chose qui était complètement nouveau pour moi, hein, parce que jusqu'à présent j'avais jamais parlé ni à un prêtre, ni à une religieuse, ni quoi que ce soit. Donc c'était beaucoup de nouveautés. Il faut aussi voilà oser faire ce pas-là. Mais c'est déjà un beau témoignage de voilà de prendre un peu une initiative concrète et puis faire un premier geste. Et donc après, ça a été du coup 2 ans de formation. Donc comme on disait, il y a eu dans cette formation un peu le côté magistral évidemment, parce qu'on se doit d'être enseigné, surtout que voilà en tant qu'étudiant, on est dans la tranche des 18-25 ans, donc on est apte aussi à recevoir des
cours. On est encore voilà habitué aussi à recevoir des cours.
C'est ça, surtout pour des étudiants qui ont l'habitude de ça, mais plus encore, en fait, c'est nécessaire d'avoir une formation doctrinale et de savoir aussi de quoi on parle, de connaître un peu les réalités de la foi. Parce que bien que la foi soit aussi une affaire spirituelle et personnelle, il faut aussi comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière, parce que le baptême, c'est un engagement qui est très sérieux. Et l'Église aussi veut nous communiquer au fait toute la grandeur de ce sacrement, et pas que le baptême d'ailleurs, hein, parce qu'on reçoit aussi maintenant quand on est adulte, bien souvent on reçoit pas seulement le baptême mais aussi la confirmation et la première communion. Donc c'est important de savoir de quoi il s'agit, c'est important de savoir ce que l'Église enseigne pour aussi avoir une vie qui soit conforme
avec un état de vie conforme,
exactement, avec une unité de vie qui reflète aussi tout ce qu'on va recevoir, parce que c'est un don immense qu'on reçoit au baptême et à la confirmation, et aussi la Sainte Communion qu'on reçoit, ces choses-là qui ont une valeur immense, et donc on se doit de les recevoir dans de bonnes conditions, et surtout ensuite de pouvoir en vivre d'une manière qui soit cohérente. Donc ça c'est important en fait d'avoir cet enseignement-là qu'on a reçu, donc même voilà sur ce qu'enseigne le catéchisme, sur tous les mystères de la foi. Mais pas seulement, parce que en fait moi dans la période où j'étais du catéchumène à la paroisse étudiante, il y a vraiment eu aussi un peu une transition, parce que face au nombre croissant de personnes qui venaient toquer à la porte de l'église, il a fallu s'adapter, et je pense qu'encore aujourd'hui hein, c'est la paroisse qui se pose des questions hein, sur comment répondre à ce surcroît de candidats au baptême et au sacrement, qui est un très beau une très belle chose, mais voilà, il faut vraiment aussi arriver à les recevoir. Et donc moi, sur les 2 années qu'il y a eu, la première année était vraiment une année où avec beaucoup d'enseignements magistraux, comme on l'avait dit. Et voilà. Et après, c'était aussi évidemment un cadre de rencontre, parce que forcément, on n'avance pas tout seul dans ce chemin-là. On est souvent avec d'autres personnes qui, du coup, ont le même âge que nous et qui, parfois, on a beaucoup de similarités quant à nos différents parcours. Et donc, c'est aussi un lieu pour rencontrer des gens. Et ça, c'est très important parce qu'on n'est pas chrétien tout seul. Et un chrétien seul est un chrétien en danger, on le répète souvent, et c'est vrai. pas seulement pendant le catéchuménat, mais aussi pendant l'après. Donc voilà, la première année était très très riche en enseignement, et la deuxième était un peu plus équilibrée, parce qu'une semaine sur deux, on avait encore ces enseignements magistraux, et les autres semaines, on avait ce qu'on appelle des repas en frat. Donc on était en petits groupes, là, on était plutôt en petits comités, par groupe de six en général. Et le but de ces autres méthodes de formation était en fait de nous faire passer du temps avec des gens qui eux sont déjà chrétiens depuis longtemps, qui ont une vie de foi qui est bien établie. Donc moi dans mon cas j'étais chez un couple marié qui avait un enfant, donc un jeune couple voilà qui est catholique et qui pratique sa foi au quotidien. Et c'était vraiment une expérience qui était différente mais très enrichissante, parce que c'était pas du tout des enseignements comme on avait l'habitude d'avoir.
Ça permet un témoignage concret aussi de ce qu'est la foi, pas la foi de papier mais vraiment la foi de pratique.
Exactement, oui, c'est ça, d'avoir en fait l'exemple aussi de gens qui vivent leur foi, qui est une foi qui est bien ancrée, qui est pas en fait la foi que nous on a en tant que catéchumène, en tant que néophyte, qui est souvent une foi qui est très vive, et parfois en fait on peut bien tomber dans un risque d'avoir un peu un excès de zèle et de manquer aussi un peu de maturité sur certains plans, sur le plan humain mais aussi sur le plan de la foi. Et donc c'est important aussi d'avoir des exemples comme ça auxquels nous rattacher, de gens qui ont déjà leur foi qui est bien vécue et qui est vraiment qui imprègne tout leur quotidien en fait. Et donc pour nous ça a été très enrichissant. Je sais que pour moi, enfin je dis pour nous parce que je parle aussi des gens qui étaient avec moi dans ce groupe là et donc ça a été aussi voilà l'occasion de déjà d'approfondir aussi ces amitiés là et du coup d'avoir un contact plus étroit et plus intime avec ces gens là et donc c'est vraiment aussi une manière de grandir et de vivre la foi en fait concrètement. On avait les enseignements voilà un peu théoriques où on apprenait les choses et on recevait beaucoup, on se nourrissait. Mais là, c'était aussi l'occasion de vivre très concrètement des amitiés chrétiennes et puis de vivre aussi dans un cadre qui est plus propice aussi au dialogue, en fait, où là, du coup, on peut plus aussi parler de ce qui nous travaille avant le baptême et puis parler de nos préoccupations et qui peuvent être nombreuses et aussi les combats qui peuvent se présenter parce qu'il y en a beaucoup et en fait, on peut comprendre pourquoi, en fait, quand on s'approche d'un sacrement et quand on va vers ce chemin-là, en fait, bah forcément, tout le monde n'est pas content et le mal existe et il essaye un peu de nous mettre des bâtons dans les roues et c'est normal. Et c'est pas quelque chose dont on doit être surpris, mais on doit aussi s'y préparer et savoir aussi y répondre entre guillemets, enfin pas dans le sens du dialogue, mais dans le sens où on doit se rattacher vraiment au choix qu'on a posé, le choix de voilà de franchir les portes de l'Église et de recevoir le baptême.
Et donc 20 avril 2025,
ouais,
le baptême. Et donc aujourd'hui, du 20 avril 2025 au 20 avril 2026, quelles ont été ces étapes, en plus, quelles ont été les difficultés, et justement, comment, grâce aux difficultés que certains néophytes ont eu ou ont actuellement, comment l'Église essaye justement par ce concile en Ile-de-France, concile régional, de surmonter tout ça?
Ouais. Bah, en fait, déjà, du coup, faut voir, déjà, que le baptême, et la réception des sacrements, parce que, enfin, je rappelle encore, mais c'est important, hein, mais le soir de la vigile pascale, on reçoit aussi la communion, enfin, la confirmation à la communion, en tout cas pour certains, mais dans tous les cas, ça s'inscrit aussi dans cette démarche-là d'être complètement initié à l'Église. Donc, d'avoir vraiment, voilà, tous les sacrements d'initiation pour être pleinement, pour vivre pleinement, en fait, la grâce, de ces sacrements, et donc, l'année qui s'écoule après permet déjà de digérer un peu tout ce qu'on a reçu, parce qu'en fait on a reçu beaucoup d'un coup et c'est vraiment très fort. Et donc de là après, tout le défi surtout, c'est d'être un peu jeté dans le grand bain, parce que pendant le catéchuménat on est quand même très suivi, on a les séances de catéchisme toutes les semaines, on revoit les mêmes personnes, on est très entouré. Et en fait après on se retrouve un peu, on peut vite se retrouver démunis en fait. Et c'est ça, je pense, que le concile qui a lieu en Ile-de-France essaye de résoudre, c'est en fait de se demander comment accueillir en fait ces nouveaux baptisés, comment accueillir ces néophytes pour qu'ils restent dans l'Église, non pas pour les garder en mettant la main sur eux, mais en fait de pouvoir aussi leur proposer des moyens de s'engager, des moyens de vivre leur foi après le baptême et en fait de vivre très concrètement la vie qu'ils sont appelés à mener, parce qu'en fait le but de ces années de catéchuménat, c'est de nous préparer à vivre cette vie chrétienne et à la vivre pleinement. Et donc ça passe par les sacrements qu'on doit recevoir régulièrement. Encore une fois, pas comme une liste de choses à faire, mais vraiment comme une continuité de ce qu'on a reçu, et en fait se rappeler aussi que
des
si on a fait
d'étapes niveau par niveau.
Comment ça?
Une liste d'étapes, c'est-à-dire qu'on reçoit pas tout d'un coup, il faut pas le faire pour le faire, mais oui. C'est une liste d'étapes et d'objectifs aussi à atteindre dans sa foi.
Oui, bien sûr, c'est des choses qui doivent aussi s'ancrer parce que c'est de nouveaux réflexes à prendre en fait. Et c'est un peu ça qui aussi peut être un peu une épreuve, c'est qu'en fait on doit réapprendre beaucoup de choses parce que quand on était catéchumène, ben voilà, il y avait des choses qu'on n'avait pas. Et en fait, maintenant qu'on est dans l'Église, on a l'opportunité de se nourrir des sacrements et c'est très important de vraiment dès le début de prendre ses marques, de faire attention à aller ce qu'on fait régulièrement, par exemple, de faire ce chemin-là, de que ça devienne une habitude. Et pareil pour la communion, hein, communier tous les dimanches évidemment, mais aussi pourquoi pas aller à la messe en semaine ou continuer en fait à vivre sa vie de foi très concrètement, pas seulement à travers les sacrements, mais aussi en s'intégrant dans une paroisse. Alors la paroisse étudiante, c'est très particulier parce que c'est une paroisse qui est de passage, et ça c'est souvent rappelé, hein, que c'est on n'est pas voué à rester éternellement dans cette paroisse-là. On y passe le temps de nos études, ou dans certains cas comme le mien, le temps du catéchuménat. Et donc après, tout le défi, c'est aussi d'arriver à s'intégrer dans une paroisse, et ça, c'est aussi ça qui est pas déconcertant, c'est qu'en fait, on se retrouve un peu face à l'inconnu, et en fait, on a l'impression parfois de devoir tout recommencer, et le but aussi de l'Église, c'est de nous tendre la main, mais encore faut-il que nous, enfin voilà, il faut aussi que nous aussi, on puisse avoir la main tendue, il faut que ce soit dans les deux sens, parce que d'un côté, les néophytes ont la responsabilité de garder ce trésor immense qu'ils ont reçu et de le faire fructifier. Et pour ça, ils doivent le faire aussi par des actes concrets, et ça passe par l'engagement dans l'Église.
Donc concrètement, si on comprend bien, on a par exemple des paroisses comme la paroisse Sion de Toulouse qui sont des paroisses d'envoi, des paroisses de passage, d'envoi, missionnaires, etc. Et on a des paroisses qui ne sont quelquefois pas forcément adaptées à recevoir tous ces néophytes qui arrivent, d'où l'objet de ce concile.
Oui, bien sûr, c'est aussi ça tout le défi, hein, des paroisses qui sont déjà établies, c'est aussi de se demander comment en fait on peut recevoir ces gens-là, comment est-ce qu'on peut continuer de les accompagner entre guillemets, et comment en fait pleinement les intégrer à la communauté, parce qu'en fait c'est vraiment aussi le but, hein, de nous en tant que néophytes, d'essayer d'arriver vraiment à s'intégrer dans une paroisse. Donc après forcément il y a du cas par cas, hein. Il y a des personnes qui vont arriver, qui vont trouver leur marque assez vite, ou qui vont connaître des gens, mais pour d'autres qui ne connaissent pas, et même pour les paroisses elles-mêmes, c'est vraiment des questions qui sont très importantes, et d'où du coup l'utilité de ce concile en Île-de-France, qui lui en plus doit être particulièrement touché par ce nombre-là de nouveaux baptisés et de néophytes, c'est le cas aussi à Toulouse, hein. Mais donc je pense que ça aura de bonnes répercussions aussi sur l'Église sur le plan national, parce que c'est vraiment aussi un enjeu qui je pense va continuer de poser questions pour les années qui viennent. Et donc le but aussi, oui, c'est ça, des paroisses, c'est vraiment d'arriver à trouver des moyens d'avoir des mains tendues vers les néophytes, pour qu'ils puissent ne pas avoir peur de franchir les portes d'autres églises, de pas avoir peur de s'intégrer à de nouvelles paroisses, parce qu'ils ont beaucoup de choses à y gagner, et beaucoup de choses aussi à y apporter, parce que les baptisés, les néophytes, ils ont une foi qui est toute neuve et qui est toute renouvelée. Et en fait, c'est quelque chose qui est très beau, je pense, pour les gens de l'extérieur, parce que ça peut aussi venir comme un témoignage, et comme on l'a dit, hein, la paroisse étudiante est une paroisse un peu d'envoi. Et en fait, de nous envoyer aussi dans les paroisses pour justement aussi venir raviver quelque chose qui soit un peu endormi, soit a besoin aussi d'un peu de dynamisme. Et puis ça vient aussi, en fait, comme un témoignage, en fait, de dire que voilà, on a fait ce chemin-là. On arrivait à terme entre guillemets, mais en fait c'est même pas la fin, parce que c'est le début. Et donc là, en fait, nous ce qu'on veut, c'est de vivre notre vie de foi et de la vivre pleinement, et donc de la vivre, et donc pour la vivre pleinement, il faut la vivre aussi dans l'Église et dans nos paroisses.
Et donc concrètement, on entend que donc les paroisses donc doivent accueillir ces néophytes, mais elles ne savent pas forcément le faire. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait donc à ces paroisses? Est-ce que ça serait de la formation? Est-ce que ça serait aussi une proposition aussi pour les néophytes de s'intégrer par le service, etc.?
Je pense que l'engagement, c'est une bonne chose, parce que la formation, en fait, c'est un devoir continuel, en fait. La formation, on doit tous continuer à se former, qu'on soit baptisé depuis un an ou qu'on soit baptisé depuis toujours. On a ce devoir de se former sur la foi, de savoir ce que l'Église nous enseigne. Donc la formation, je pense que c'est pas tant l'aspect le plus important, mais c'est vrai
une formation, je veux dire, pour donc en complément des néophytes, mais aussi pour les paroissiens, de fait, pour intégrer ces néophytes.
Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir des lieux de rencontre. Je sais que, en parlant du coup de formation intégrée, je sais qu'il y a ce qu'on appelle les catéchismes de persévérance qui existent dans certaines paroisses, qui sont du coup ouverts à tous. Et ça, en fait, c'est bien, parce que ça fait un pont. Déjà, ça fait un point d'accueil pour n'importe qui souhaite venir à ces moments-là, mais aussi pour continuer à créer du lien et en fait souder les paroissiens entre eux. Donc après, la formation, oui, mais aussi et surtout des engagements concrets, mais très simples. Pas forcément de faire des choses très compliquées, pas forcément des choses qui sont très prenantes en termes de temps, mais quelque chose qui soit régulier. Ça peut être une maraude, ça peut être pour les garçons, le service de la messe, ça peut être, voilà, il y a pas mal de possibilités qui sont ouvertes aujourd'hui dans nos paroisses et qui peuvent être exploitées, et en fait qui peuvent être déployées et rendues plus accessibles aux néophytes, en disant voilà, si vous êtes néophyte et que vous savez pas quoi faire, ben on vous propose telle ou telle chose, et puis je pense que tout le monde peut vraiment trouver son compte, et en fait il suffit juste d'essayer et d'oser. Et parfois c'est un peu ce qui est dur, hein, quand on arrive et qu'on sait pas trop quoi faire, mais le rôle, voilà, justement des paroisses, c'est de pouvoir aussi avoir cette main tendue et d'avoir des propositions très concrètes, pour les néophytes, même des points d'écoute, même de proposer de l'accompagnement spirituel, parce que c'est quelque chose qui est important aussi, qui est pas, je pense, nécessaire pour tout le monde, mais qui en tout cas est souvent quelque chose qui peut beaucoup aider face aux questionnements qu'on a, parce que encore une fois, il faut pas rester seul et il faut pas non plus hésiter en fait à demander conseil, parce que voilà, les prêtres sont là pour ça, mais il y a aussi les autres paroissiens qui sont là, et donc c'est souvent en fait prendre le temps d'aller vers l'autre, prendre le temps de faire connaissance aussi et de créer du lien. Et donc ça se fait, ben voilà, ça peut se faire par des formations, ça peut se faire par des engagements, mais voilà, il doit avoir des moyens comme ça qui doivent être proposés par les paroisses, d'une part pour mettre au service les paroissiens qui eux sont déjà bien installés, et pour venir voilà aussi un peu écarter ces horizons, et aussi pour voilà justement pour pouvoir recevoir ces néophytes.
Voilà, donc en fait, si on avait un mot vraiment qui devrait être aussi la thématique de ce concile, c'est l'accueil. On le voit aussi donc dans certaines paroisses, par exemple avec un cas personnel à la paroisse de Figeac, où vraiment le curé, depuis quelques années, dans son cas de la transformation pastorale et paroissiale, a vraiment mis à cœur cet accueil, c'est-à-dire de ce sourire donc au début de la messe, donc avec des paroissiens qui accueillent les nouveaux, qui accueillent des habitués, mais qui aussi accueillent les nouveaux et qui essayent aussi de les repérer justement pour les intégrer pleinement à la communauté.
Ouais, ça c'est très important en fait. Ouais, c'est ça que les paroisses, surtout les niveaux en fait, aussi bien au niveau des prêtres qu'au niveau des paroissiens, soient au courant aussi en fait, et vraiment cette chose en tête que ben voilà, il y a des néophytes qui vont arriver. Il y en a sûrement qui sont déjà dans les paroisses et qui vont continuer à venir, mais il y a aussi ceux qui vont débarquer un peu de nulle part. Et en fait, il faut s'y attendre et il faut, comme tu l'as dit, Enzo, il faut arriver à les repérer, il faut arriver à savoir qui ils sont, parce que en fait, il faut aussi les encourager à faire ce premier pas, parce que souvent c'est pas quelque chose qui est évident, parce que justement, en tant que converti, on manque parfois peut-être de certains codes, on n'a pas forcément les mêmes habitudes, et donc pour s'acclimater, pour s'assimiler un peu au reste des paroisses, c'est important du coup qu'on puisse aussi venir vers nous. Et en fait, c'est un échange qui va dans les deux sens, parce que d'une part, évidemment, il y a toutes les paroisses qui ont leur rôle à jouer, et ça, je pense que c'est vraiment tout l'enjeu du concile, mais il y a aussi et surtout la part individuelle qui est très importante, où en fait, chaque néophyte doit aussi de lui-même chercher en fait et aller vers les paroisses, parce que c'est aussi comme ça que ça va redynamiser en fait tout l'ensemble en fait des paroisses par rapport à la question des néophytes. C'est par cet engouement et par cette envie très concrète de vouloir s'intégrer, et en fait parce que je pense que vraiment parmi les néophytes, il y en a qui ont vraiment ce désir là de servir et de pouvoir s'engager, mais encore faut-il qu'ils puissent être reçus. Mais en fait, je pense que en voyant donc l'afflux des catéchumènes, la question, je pense, de l'après doit naturellement se poser aussi dans les paroisses, aussi bien pour les prêtres que pour tous les paroissiens. Mais c'est important de vraiment toujours garder ça en tête, en fait, parce que quand le baptême arrive, on peut se dire, bon voilà, ils sont plus catéchumènes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut les oublier ou qu'il faut passer à autre chose. C'est très important quand même de garder aussi un regard bienveillant sur eux. Peu importe ce qui se passe après, parce que peut-être que certains décrocheront, peut-être que certains resteront, mais en fait il faut aussi arriver à discerner un peu les deux, et puis aussi à ne pas tout prendre personnellement. Je pense par exemple, voilà, si je me mets à la place d'un prêtre et qui a un peu ces questionnements-là, de se dire voilà, est-ce que les catéchumènes vont rester, est-ce que voilà, il y a une part aussi qui est juste entre les mains de Dieu en fait, et donc ça c'est aussi des choses qu'on peut pas vraiment expliquer, parce que on peut faire autant de synodes qu'on veut et on peut faire autant de questions qu'on veut, il y a quand même beaucoup de choses qui resteront aussi dans le mystère. Et il y a aussi voilà, chaque chemin aussi est différent. En fait, il y a aussi cette question du néophyta qui est importante, mais une fois que c'est fait, il y a aussi la question de l'après encore, et de comment est-ce qu'on va continuer à vivre cette vie-là, cette vie chrétienne qu'on a reçue, qui a eu un point de départ, mais qui se doit de continuer et de persévérer.
Oui, je parlais aussi de cette démarche individuelle aussi, qui n'est, alors on parle des paroisses, mais on parle aussi des néophytes, qu'il faut qu'il y ait aussi une démarche individuelle au fait de maintenir aussi cette petite flamme. Bon, on va dire que le baptême c'était un feu ardent, mais maintenir aussi cette flamme vive. Alors elle sera pas effectivement aussi ardente, aussi grosse, mais elle sera toujours là. On parlait donc de ce caractère individuel. Est-ce que aussi l'une des solutions, ça pourrait être aussi d'espacer les sacrements, justement pour maintenir aussi ce cap, ces objectifs, de ne pas tout recevoir petit à petit, en fonction bien sûr des profils.
Ben voilà, c'est surtout ça la question, ça va dépendre vraiment du cas par cas, et en fait il va falloir aussi faire en fonction de chaque personne. Après, espacer les sacrements, oui, mais dans tous les cas il faut quand même garder en tête que la réception d'un sacrement, c'est pas la fin de quelque chose, Et en fait, il faut toujours garder en tête que tout ça, c'est prévu pour autre chose que simplement le moment T. C'est-à-dire que forcément, voilà, il y aura le jour du baptême, il y aura le jour de la confirmation, il y aura le jour de la première communion. C'est très bien. Mais il faut aussi que ça puisse s'inscrire dans une continuité vraiment sur le long terme et qu'en fait, il faut dès le catéchuménat préparer les candidats au baptême et au sacrement. Faut qu'ils soient préparés en fait à ce que le baptême et les sacrements qu'ils vont recevoir sont qu'une porte d'entrée et qu'en fait il faut qu'ils soient prêts à vivre ce qu'ils ont reçu une fois qu'ils l'ont reçu. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'ils ont reçu les sacrements, les choses vont changer, les choses vont être différentes et il faut qu'ils soient préparés à ça aussi. Et donc je pense que c'est ça aussi l'intérêt, hein, d'avoir aussi un dialogue entre les néophytes et les catéchumènes, peut-être aussi, hein, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais je pense que ce qui est bien et ce qui sera prévu, hein, sans aucun doute par le concile provincial en Île-de-France, c'est aussi de consulter. Voilà, consulter les néophytes, consulter les gens qui sont au plus proche. Et en parlant de tout ça, je vois aussi un lien qui est fait, qui est intéressant, c'est que je parlais aussi tout à l'heure du lien qui a été créé pendant le catéchuménat. Et en fait, ces liens-là, souvent, ils s'arrêtent pas au baptême. Quand il y a des amitiés qui sont concrètes et qui sont profondes et qui se forment pendant ces temps-là du catéchuménat, souvent, elles restent après le baptême. Et c'est aussi des choses qui sont très porteuses et qui aident beaucoup. C'est d'être entouré par des gens avec qui on se sent déjà bien et qu'on connaît déjà et qui, eux aussi, en fait, ont vécu ces choses-là. Moi, j'ai vraiment la grâce immense d'avoir eu quelques amitiés que j'ai encore et qui sont très profondes, qui ont commencé avec le catéchuménat et qui continuent encore aujourd'hui. Et je sais que c'est des choses qui sont très porteuses parce qu'en fait on a vécu les mêmes choses, enfin on a vécu la même chose à plusieurs. Et en fait on est confronté aussi aux mêmes épreuves, aux mêmes choses. Et en fait de pouvoir aussi communiquer entre nous, ça nous maintient aussi et ça nous rend responsables les uns envers les autres, de savoir voilà où est-ce que chacun en est et de pouvoir aussi se porter les uns vers les autres pour toujours plus grandir et toujours aussi garder cette fidélité aux promesses de notre baptême.
Pour conclure très rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il faut aussi prendre conscience que une fois le néophyta terminé, ça y est, il est pas seul dans sa foi parce qu'il est entouré, ouais. Mais il devient de fait disciple et c'est à lui maintenant de faire rayonner.
C'est ça. Et donc de là, en fait, ça va se concrétiser dans vraiment un approfondissement concret, des questions plus grandes aussi. Voilà, il y a des questions qui peuvent se poser une fois qu'on est pleinement dans l'Église. À quoi je suis appelé? Où est-ce que Dieu m'attend? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc tout ça, c'est des questions qui doivent se poser sérieusement, sans empressement et sans pression non plus, mais qui vraiment doivent résonner dans la tête de ces chrétiens, nouveaux chrétiens pleinement intégrés. Comment est-ce que je vais faire pour continuer de faire fructifier tout ce que j'ai reçu?
Merci beaucoup Louis-Marie pour ce beau témoignage qu'on te retrouve dans quelques instants aux alentours de 19h44 pour ta deuxième chronique. Ouais. Avant ça, un peu de musique, on va écouter la communauté de l'Emmanuel, c'est Jésus-Christ et Seigneur, Alléluia, pour se rappeler le temps de Pâques. Et puis après, on reviendra avant ta chronique avec Michel Sardou, c'est en chantant sur Radio Présence. Ouais, on se retrouve juste après. C'est parti.
Vivant et ressuscité, par sa mort il a vaincu la mort. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchanté. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent en chantant. Quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson.
h 44 sur Radio Présence. Louis Barry pour ta deuxième chronique. On part au premier siècle.
Ouais, dans les premiers siècles.
Dans les premiers siècles de l'Église avec Saint Georges le Martyr.
C'est ça. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir une grande figure de la tradition chrétienne, mais qui est pas très connue. Saint Georges, un saint dont on connaît l'image et qui a traversé les siècles, et qui est souvent associé à celle d'un chevalier terrassant un dragon, mais dont la véritable histoire mérite d'être méditée avec profondeur. Saint Georges aurait vécu au tournant du 4e siècle, sous le règne de Dioclétien. À une époque marquée par des violentes persécutions contre les chrétiens, soldat de l'armée romaine, il était reconnu pour sa bravoure, sa discipline et son sens du devoir. Mais au-delà de ses qualités humaines, c'est sa foi qui allait révéler toute la grandeur de son âme. Lorsque l'autorité impériale exigea des chrétiens qu'ils renient le Christ et rendent un culte aux dieux païens, Georges fit un choix radical. Il refusa de renier sa foi chrétienne, et ce refus n'était pas un acte de rébellion, mais un acte de fidélité. Fidélité à Dieu, fidélité à la vérité, fidélité à celui qui avait donné sa vie pour tous. Un épisode de la tradition illustre particulièrement cette fermeté intérieure. Confronté à une statue d'Alexandre le Grand, devant laquelle on l'attendait qu'il rende hommage, Georges refusa tout geste d'adoration. Ce refus simple en apparence manifeste une liberté spirituelle profonde, celle de ne reconnaître qu'un seul Seigneur. Ce choix entraîna des conséquences lourdes. Il a été arrêté, il a été soumis à des supplices, pressé d'abandonner sa foi. Georges demeura inébranlable. Sa force ne venait pas d'une simple détermination humaine, mais d'une confiance profonde en Dieu. Il savait que la vie terrestre n'était pas le dernier mot, et que la fidélité au Christ ouvre à une espérance plus grande que toute souffrance. Ainsi, Saint Georges est devenu martyr, c'est-à-dire témoin. Par sa vie et par sa mort, il atteste que la foi chrétienne n'est pas une simple adhésion intellectuelle, mais un engagement total de l'être. Au fil du temps, la tradition a enrichi sa figure d'un symbole puissant, celui du combat contre le dragon. Cette image, loin d'être anecdotique, exprime une vérité spirituelle essentielle. Le dragon représente le mal sous toutes ses formes, le péché, la peur, l'injustice, tout ce qui cherche à éloigner l'homme de Dieu. En terrassant le dragon, Saint Georges devient une figure du combat spirituel que chaque chrétien est appelé à mener. Ce combat ne se livre pas avec des armes, en tout cas pas des armes visibles, mais dans le cœur de l'homme, là où se jouent les choix décisifs. Dans cette perspective, Saint Georges apparaît comme une figure profondément actuelle. Il rappelle que la foi n'est pas une réalité abstraite, mais une force vivante qui oriente les décisions, même dans les situations les plus difficiles. Il montre que la fidélité à Dieu peut demander du courage, parfois même un véritable renoncement. Il est aussi important de souligner que Saint Georges n'était pas retiré du monde, il vivait au cœur de la société de son temps, engagé dans ses responsabilités. Sa sainteté n'est pas construite en dehors du réel, mais dans la fidélité quotidienne à Dieu, au milieu des contraintes et des épreuves. Cette dimension est essentielle pour nous aujourd'hui. Être chrétien ne signifie pas fuir les réalités du monde, mais les habiter avec une lumière intérieure. Une lumière qui vient du Christ et qui permet de discerner le bien, de rester droit, même lorsque les repères semblent vaciller. Saint Georges nous enseigne également que le véritable courage ne consiste pas à s'imposer par la force, mais à rester fidèle dans l'épreuve. Il ne cherche pas la confrontation et il ne cède pas non plus lorsque l'essentiel est en jeu. Son attitude est celle d'un homme libre, enraciné dans sa foi. Enfin, sa figure renvoie au mystère du Christ. Comme lui, il affronte l'injustice et comme lui, il accepte de mourir et de souffrir sans renier la vérité. Et il témoigne aussi que l'amour est plus fort que la violence. Et à travers les siècles, Saint Georges est devenu un modèle pour de nombreux chrétiens, non pas un héros inaccessible, mais un témoin qui rappelle que la sainteté est possible, même dans les contextes les plus exigeants. Aujourd'hui encore, son exemple nous invite à vivre une foi cohérente et incarnée, qui est capable de traverser les épreuves sans jamais les renier. Il rappelle que chaque époque connaît ses défis, mais que la fidélité à Dieu demeure que la fidélité à Dieu demeure le chemin de la vraie liberté. Que son témoignage continue d'éclairer les cœurs et de fortifier ceux qui cherchent à vivre l'Évangile avec courage et vérité.
Merci beaucoup Louis-Marie. On écoute Vivre pour méditer sur ta chronique et sur Saint-Georges. On écoute Vivre d'amour sur Radio Présence.
Vivre d'amour, c'est vivre de ta vie, roi glorieux, délice des élus. Tu vis pour moi, caché dans une hostie. Je veux m'y cacher, ô Jésus. Amour est un feu.
gorge, la douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lueur, l'espoir. Quitte les trans en douceur, alors reviens dans sa conscience, ta douleur au fond de lui sans cette peur immense de voir mourir ce sentiment d'amour intense.
Sauver l'amour sur Radio Présence, et c'est déjà la fin de Soif d'autre chose, mais on se retrouve comme chaque lundi, la semaine prochaine, en direct à 19h, Louis-Marie.
Ouais, et aussi un petit mot aussi, n'oubliez pas que dimanche prochain, c'est le dimanche du bon pasteur, et c'est aussi un dimanche qui est particulièrement dédié aux prières pour les vocations. Donc pensez-y, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson.
Voilà, et on rappelle aussi le 8 mai aussi les portes ouvertes du séminaire Saint-Cyprien, nos voisins, voilà. C'est là déjà la fin de ces autres choses dans quelques instants. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon, puis les rues de Toulouse. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Présence. Très bonne soirée à vous.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.